Chapitre 45.
Callan tenta de respirer, mais le poids de ses agresseurs lui coupait le souffle. Des larmes de douleur aux yeux, elle sentit que d'autres darans venaient pour la curer. Des relents d'alcool montèrent à ses narines. Sa vision se brouilla et elle avala de la salive mêlée de sang. Le sien. Alors elle entendit un lointain roulement de tonnerre. Sous son dos, le sol vibra à mesure que le son augmentait, menaçant de lui percer les tympans. Des cris d'hommes retentirent. Certains de ses agresseurs regardèrent le ciel. Un peu moins écrasée, l'inquisitrice parvint à aspirer un peu d'air, le meilleur qui eût jamais pénétré dans ses poumons. Quand le colosse qui l'avait frappé au menton tourna la tête pour sonder le ciel à son tour, elle vit que son œil gauche était barré par une cicatrice qui lui descendait sur la joue. La paupière était cousue sur l'orbite vide. Parvenant à dégager sa main gauche, Callan saisit le borgne à la gorge. Entendant un fracas métallique, elle comprit que le tonnerre était en réalité un roulement de sabots. Breen et Peter, montés sur Daisy et Pip, venaient de surgir du brouillard. Ils chargeaient les darans, les fauchant comme des épis de blé avec leurs chaînes diaboliques. L'avantage changeait-il de nouveau de camp? Callan serra plus fort le cou du borgne, puis elle libéra son pouvoir. L'air vibra, comme après un coup de tonnerre silencieux. L'onde de choc balaya les agresseurs de l'inquisitrice, qui la lâchèrent et crièrent de douleur. Trop proche de la magie au moment où elle s'était déchaînée, ils la sentaient fouailler leurs entrailles et vriller leurs nerfs. Une colonne de neige s'éleva et tourbillonna comme un cyclone miniature. Nick hennit de souffrance et fracassa la tête d'un homme d'un coup de sabot à quelques pouces de l'oreille de Callan. Du sang et de la cervelle jaillirent, l'aspergeant copieusement.
« Maîtresse,
gémit le borgne,
dis-moi ce que je dois faire.
Protège-moi. »
Le colosse se releva, saisit deux soldats par les cheveux et les envoya s'écraser au loin sur la neige comme s'ils ne pesaient rien. Son bras droit libéré, Callan leva son épée et fendit en deux le visage du dernier homme qui lui immobilisait le gauche. Le borgne la débarrassa obligeamment du cadavre. Les chevaux de trait approchaient toujours. Callan se releva et constata que la chaîne les percuterait dans quelques secondes.
« Aide-moi à monter à cheval »
cria-t-elle au borgne. Le colosse lui saisit une cheville. D'un bras et sans effort, il la propulsa en selle. Se penchant, elle fendit en deux le crâne du daran qui retenait Nick par le mort. Les rênes en main, Callan regarda le borgne, occupé à pourfendre ses anciens camarades à grands coups de hache.
« Maîtresse, enfuis-toi, Orsk protégera tes arrières.
Je m'en vais, oui. Cours, Orsk, ne les laisse pas t'avoir. »
Les darans se désintéressèrent de la mère inquisitrice et de son cheval pour faire face à deux menaces pressantes, Orsk et la chaîne infernale. Callan talonna Nick au moment où Breen et Peter arrivaient à sa hauteur. Ensemble, ils détalèrent à la vitesse du vent. L'inquisitrice repéra la piste laissée dans la neige par les galéiens et la suivit. Mais les darans, elle le savait, ne seraient pas longs à reprendre leurs esprits. Ils les poursuivraient, et il en restait assez de vivants pour que ce soit un problème. Peter décrocha la chaîne qui avait brisé des milliers de pattes et de jambes, et Breen la replia. Lancé au grand galop, Callan crut entendre mourir derrière elle les derniers échos d'un rire moqueur. Frissonnant au souvenir du baiser que Darkenral avait posé sur son cou, elle se sentit de nouveau atrocement nue. Malgré le vent glacial, elle transpirait à grosses gouttes et du sang ruisselait de sa lèvre inférieure éclatée.
« J'ai cru ne jamais vous revoir »
cria-t-elle aux deux cochers.
« On vous avait bien dit qu'on était à la hauteur !»
répondit Breen.
« Vous êtes des merveilles !»
lança Callan en souriant pour la première fois de la nuit. Loin devant, elle aperçut la colonne de neige soulevée par les chevaux de trait.
« J'aperçois vos hommes. Rejoignez-les et bonne chance !»
Breen et Peter la saluèrent et galopèrent vers leurs compagnons. Callan rattrapa assez vite les fantassins. Enfin, un fantassin pour commencer. La jambe ouverte, il avait couru tant qu'il pouvait puis s'était écroulé dans la neige où il s'efforçait de ramper, acharné à rejoindre ses camarades. Elle devait le laisser. Il le fallait car Dédaran devait s'être déjà lancé à sa poursuite. Quand elle passa près de lui, il leva la tête mais n'appela pas au secours. Lui aussi connaissait les ordres. Suivre les autres ou être abandonné. Les ordres de Kalan. Et il ne souffrait aucune exception. Elle ralentit, baissa un bras, saisit le poignet du malheureux et le hissa derrière elle.
« Accroche-toi bien, soldat !»
L'homme tendit les bras pour tenter de conserver son équilibre. À l'évidence, il avait peur de toucher la mère inquisitrice.
« Mets tes bras autour de ma taille !»«
Quoi ?
Tu n'as jamais enlacé une femme, jeune idiot ?»«
Oui, mais elle avait des vêtements. »«
Dommage pour toi. Fais ce que je te dis ou tombe, et n'espère pas que je reviendrai te chercher. »
À contre-cœur, le soldat passa les bras autour de la taille de Kalan, attentif à ne rien toucher de trop stratégique.
« Quand tu te vanteras de cet exploit, mon garçon, »
dit-elle en lui tapotant gentiment la main,
« n'en rajoute pas, s'il te plaît. »
Le malheureux lâcha un grognement angoissé qui la fit sourire. Mais elle sentait son sang ruisseler le long de sa jambe et jusqu'à ses chevilles. Il était salement amoché et elle entendait déjà les cris de leurs ennemis dans leur dos. Oubliant sa ridicule pudeur, le jeune homme céda à l'épuisement et posa la tête sur l'omoplate de l'inquisitrice. Sans garrot et dans les plus brefs délais, il n'en avait plus pour longtemps. Hélas, même s'ils avaient pu s'arrêter, nus comme un ver, elle n'avait rien sous la main pour enrayer l'hémorragie.
« Rapproche les lèvres de ta plaie d'une main et serre aussi fort que tu peux, mais continue à te tenir à moi avec l'autre bras, ce n'est pas le moment de tomber. »
Le blessé obéit en tremblant, de froid, ou parce que la faim approchait. Quand ils rattrapèrent la colonne de fantassins, Kalan s'aperçut aussitôt, comme elle l'avait redouté, qu'ils étaient gelés jusqu'aux os et morts de fatigue, et les darans, à entendre leur braillement, n'étaient plus bien loin. Risquant un coup d'œil en arrière, la jeune femme fut frappée par leur nombre.
« Courez, sinon nous sommes fichus !»
Une muraille rocheuse hérissée d'arbres ratatinés se dressait devant eux. Dès que les premiers fantassins eurent commencé l'escalade, Kalan donna le signal en frappant trois fois la roche du plat de sa lame. Un homme se retourna sans cesser de courir.
« Nous sommes trop loin de notre destination »
cria-t-il.
« C'est trop tôt. Nous allons être piégés avec nos ennemis. Dépêche-toi, soldat, au lieu de bavarder. Si nous attendons trop longtemps, ils nous tomberont dessus. »
Kalan frappa trois nouveaux coups sur la roche. Son plan allait-il fonctionner ? Il fallait l'espérer, car il n'avait pas eu évidemment la possibilité de faire des essais préliminaires. Devant elle, les fantassins gravissaient péniblement la piste, et les sabots de Nick glissaient souvent sur la roche couverte de neige. Au début, Kalan sentit comme des vibrations dans sa poitrine, écho d'un grondement trop bas pour qu'on l'entende, mais trop puissant pour qu'on ne le capte pas dans toutes les fibres de son corps. Elle leva les yeux vers le sommet de la muraille rocheuse perdue dans le brouillard. Si elle ne voyait rien, ça avait commencé. Elle le savait. Elle espéra que le soldat tout à l'heure avait eu tort et qu'il n'était pas trop tôt. Entendre derrière elle les cris de guerre des hommes de l'ordre lui confirma qu'elle n'avait pas eu le choix de toute façon. Alors, elle entendit un bruit d'apocalypse, comme si les entrailles de la terre se déchiraient. Des troncs d'arbres se brisèrent avec un craquement sec, le sol vibra et un roulement de tonnerre se répercuta dans les montagnes environnantes.
« Plus vite !»
cria l'inquisitrice aux hommes.
« Vous voulez être ensevelis vivant ? Dépêchez-vous, bon sang !»
Ils faisaient de leur mieux, mais ils étaient à pied et du haut de son destrier, leur progression lui semblait atrocement lente. Le grondement se fit plus fort quand des tonnes de neige se détachèrent de la paroi. Les galéiens postés en hauteur avaient réussi à déclencher une avalanche, mais n'avaient-elles pas donné l'ordre trop tôt? De la neige humide s'écrasa sur son visage et sur son épaule. Un nuage blanc, héros du gros de l'avalanche, dévalait la pente. Le bruit à présent était assourdissant. Ils traversèrent ce rideau blanc comme s'il s'était agi d'une cascade. Derrière Kalan, un arbre déraciné bascula dans le vide. Les galéiens atteignirent le sommet au moment où l'enfer se déchaînait. Leurs poursuivants eurent moins de chance et reçurent de plein fouet la gigantesque coulée de neige lestée de rochers et de troncs. Balayés du flanc de la falaise comme des fétus de paille, leurs cris couverts par le grondement de l'avalanche, ils dégringolèrent vers une mort certaine. Callan soupira de soulagement. Désormais, plus personne ne pourrait les suivre, car le passage était obstrué. Haletant, les Galéens ralentirent un peu. Mais pas trop, sinon ils risquaient de crever de froid. Même s'ils avaient enveloppé leurs pieds dans des chiffons blancs pour se protéger autant que possible, ils devaient être gelés. Ces braves s'étaient admirablement battus au nom des contrées du milieu, et beaucoup avaient sacrifié leur vie. Épuisé par le manque de sommeil, les efforts de la bataille et l'utilisation de son pouvoir, Callan chancelait sur sa selle. Mais bientôt, pensa-t-elle, elle pourrait se reposer un peu. Elle tapota la main du blessé toujours plaqué sur son ventre.
« Nous avons réussi, soldat. Il ne peut plus rien nous arriver. »« Je sais, mère inquisitrice, » souffla l'homme. « Mais je suis désolé. »
« De quoi ?»«
J'ai tué seulement 17 ennemis et je m'étais juré d'en avoir 20. »
« Je connais des héros bardés de décorations qui n'ont pas atteint la moitié de ce nombre lors d'une seule bataille. »«
Je suis fier de toi, soldat, et les contrées te remercient. »
Le blessé marmonna quelques mots incompréhensibles. « On s'occupera bientôt de toi, mon ami, » dit Callan en lui tapotant de nouveau la main. « Accroche-toi et tout ira bien. » Le soldat ne répondit pas. Jetant un coup d'œil derrière elle, Callan vit une vaste étendue de neige sur laquelle régnait un silence de mort. Dans le lointain, un loup hurla à la lune. Quelques minutes plus tard, ils atteignirent le camp provisoire sur un haut plateau. Les premiers galéiens, enveloppés dans des couvertures, se réchauffaient déjà autour des feux. Certains s'étaient rhabillés et les plus vaillants s'occupaient des nouveaux arrivants ou des blessés. Comme tous ceux qui avaient des plaies, l'excitation du combat et de la fuite dissipée, Callan commença à sentir la douleur de sa lèvre éclater. À la lueur des feux, elle vit Prindin et Tossidine s'affairer à aider les Galéiens. Quand ils l'aperçurent, tous les deux sourirent de soulagement. Vêtu d'un uniforme d'Aran, un bandage autour de la main gauche, le capitaine Ryan courut à la rencontre de l'inquisitrice. Un homme prit les rênes de son cheval et d'autres se chargèrent du blessé qu'ils déposèrent dans la neige. Prindin apporta son manteau à Callan. Souriant, il attendit qu'elle descende de cheval pour l'aider à l'enfiler, une galanterie qui n'était pas sans arrière-pensée. Mais la jeune femme tendit un bras tremblant.
« J'ai été assez reluqué comme ça, » dit-elle. « Envoie-moi ce manteau. »
Prindin obéit. Grognon, Tossidine lui flanqua une claque sur la nuque. Dans un silence tendu, les soldats détournèrent plus ou moins le regard pendant que leur chef couvrait sa nudité. Callan mit un pied à terre et constata que ses jambes parvenaient à peine à la porter. La tête lui tournant, elle se servit de son épée comme d'une canne et attendit que le monde se stabilise autour d'elle.
« Pourquoi ne vous occupez-vous pas de ce malheureux ? »
dit-elle en baissant les yeux sur l'homme qu'elle avait sauvé.
« Ne restez pas là à ne rien faire. »
Personne ne broncha.
« Aidez-le, c'est un ordre. » « Mère inquisitrice ?»
dit Ryan en avançant vers elle.
« Je suis navré, mais il est mort. »« Non !»
cria Callan.
« Il y a 5 minutes, il me parlait !»
Elle martela la poitrine du capitaine de coups de poing.
« Il n'est pas mort ! Pas mort ! Pas mort !»
Les hommes ne dirent rien et détournèrent le regard. Callan cessa de frapper et laissa retomber son bras.
« Il a tué 17 de ses chiens, » souffla-t-elle à Ryan.
« Vous m'entendez tous ? 17 !»«
Il s'est bien battu, et nous sommes fiers de lui, »
souffla Ryan. Callan parvint enfin à se ressaisir.
« Pardonnez-moi, je vous en prie, veuillez m'excuser. Vous avez tous été formidables, des héros à mes yeux et pour toutes les contrées du milieu. »
Les hommes parurent un peu moins abattus. Certains recommencèrent à manger et les cuistots reprirent la distribution de rata.
« Où est Shandalen ?»
demanda Callan en commençant à mettre les bottes que Tossidine venait de lui apporter.
« Il était avec les archers, »
répondit Ryan.
« Je suppose qu'il continue à arroser de flèches les darans. »
Alors que les deux frères s'éloignaient, l'officier baissa la voix.
« Je suis content que ces trois-là aient été avec nous.
Si vous aviez vu Prindin éliminer les sentinelles avec son troga, ces hommes sont incroyables. On ne les entend pas, on ne les voit pas, et ils font un véritable carnage. Et ils réussissent la même chose dans leur plaine, en plein jour.
Callan étudia le capitaine de pied en cap.
Très bel uniforme, il vous va à ravir. Ces cuirasses pèsent une tonne, je me demande comment il les supporte à longueur de journée.
Il tapota une entaille dans le cuir.
Mais j'étais bien contente de l'avoir. Comment s'est déroulée l'opération? Et combien d'hommes avez-vous perdu?
Presque tous les objectifs ont été atteints.
Avec ces uniformes, nous n'avons pas dû nous battre beaucoup. À part les types que nous avons tués, personne ne nous a remarqués. Les pertes sont minimes de notre côté.
Mais votre groupe, c'est différent. J'ai fait une estimation lors de votre arrivée. 400 fantassins sur 1000 ne sont pas revenus.
Nous avons tous failli y rester. Mais vos gars ont fait du bon boulot. Et les cochers aussi.
Les hommes à qui j'ai parlé ont au moins abattu 10 adversaires. Beaucoup ont fait mieux encore. Nous avons arraché un gros morceau de viande au taureau.
Mais nous en avons perdu un gros aussi.
Mes gars ont-ils fait ce que je leur avais dit? Vous ont-ils protégé?
Et ils ont tenu l'ennemi si loin de moi que je ne saurais vous dire à quoi il ressemble. J'ai peur de ne pas avoir ajouté à la gloire de votre épée, capitaine. Espérons que vous serez quand même honoré qu'elle ait battu mon flanc pendant les combats.
Ryan plissa les yeux.
Vous avez une lèvre éclatée et j'ai vu que votre cheval était couvert de sang. Comme vous d'ailleurs.
À l'évidence, le capitaine n'était pas dupe.
Un ivrogne m'a jeté sa chope à la tête,
mentit Callan.
C'est ça qui m'a blessé la lèvre. Quant au sang, ça doit être celui du malheureux que j'ai essayé de sauver.
Elle tourna la tête vers les jeunes héros assis autour des feux.
J'aurais aimé être à moitié aussi efficace qu'eux. Ce sont des lions.
Je suis soulagé que vous soyez resté à l'écart des combats,
fit le capitaine pas du tout convaincu.
Et ravi de vous revoir.
Et le reste de nos forces? Où en sont les archers et la cavalerie?
Il faut harceler nos ennemis tant qu'ils sont encore sous ou malades.
Ce temps brumeux est idéal pour des embuscades. Nous devons enchaîner les frappes, capitaine. Pas de batailles rangées, mais des raids incessants.
Tous les hommes savent ce qu'ils ont à faire. Ils attendent que vienne leur tour d'attaquer. Les archers devraient en avoir bientôt terminé. La cavalerie prendra le relais, puis les piquiers. Nos gars dormiront par roulement. Les bouchers de l'ordre n'auront plus une minute de repos.
Très bien. Que les fantassins récupèrent. Demain, ils devront repasser à l'action.
Callan brandit un index sous le nez de l'officier.
« N'oubliez pas le plus important. »
Elle cita littéralement son père.
« L'arme qui vient à bout le plus vite de la raison d'un adversaire est un mélange de violence et de terreur. Ils ont utilisé cet outil. À présent, nous allons le retourner contre eux. »«
Mère inquisitrice, »
dit Prindin en approchant.
« Tosidin et moi t'avons préparé un abri. » Tes vêtements t'y attendent et de l'eau chaude si tu souhaites te laver.
Merci, Prindin,
répondit Callan en essayant de ne pas montrer combien elle avait hâte de se débarrasser des souillures de la guerre. Au centre d'une clairière, l'homme d'Adobe désigna un petit abri composé de branches de sapin baumier couvertes de neige. Callan en approcha, se baissa pour entrer, et constata que des bougies brûlaient dans le refuge, apportant une agréable chaleur. Le sol étant lui aussi couvert de branches, la minuscule cabane embaumait le sapin. Près des pierres chauffées, de la vapeur montait d'un seau d'eau. L'inquisitrice se réchauffa les mains au-dessus des pierres. Les deux frères lui avaient préparé un vrai petit nid. Leur gentillesse lui fit monter des larmes aux yeux. Son paquetage était là aussi, près de ses vêtements soigneusement pliés. Callan retira le collier que lui avait offert Adi. La seule chose qu'elle s'était autorisée à porter pendant la bataille, elle serra le bijou contre sa joue avant de le tremper dans l'eau pour le nettoyer. C'était la réplique exacte de celui que lui avait donné jadis sa mère. Elle plongea la tête dans le seau et se lava longuement les cheveux, puis elle se débarbouilla méthodiquement. C'était moins agréable qu'un bain, mais se débarrasser du sang la ravit. Au prix d'un gros effort, elle parvint à oublier un moment les horreurs qu'elle venait de vivre. Elle pensa à Richard, à son sourire de gamin qui la faisait fondre, à ses yeux gris qui voyaient jusqu'au fond de son âme. Une fois propre, elle s'étendit, laissant sécher ses cheveux au contact des pierres.
Elle devait dormir. Depuis qu'elle l'avait utilisé sur le borgne, Orsk, lui semblait-il, son pouvoir ne s'était pas reconstitué. Elle sentait comme un creux dans son estomac, à l'endroit où il se concentrait.
Il faudrait encore un peu de temps pour qu'il revienne, mais sans dormir, elle ne parviendrait pas à se débarrasser de son épuisement et de sa nausée.
Elle rêvait de s'allonger et de dormir. Dans son état, il ne lui aurait pas été difficile de s'assoupir, mais il ne le fallait pas. Pas encore.
Se relevant, elle remit le collier et s'habilla laborieusement, puis elle sortit de son sac un pot d'onguent et s'en appliqua sur la lèvre. En rangeant le petit récipient, elle avisa le couteau de Shandalen et le fixa de nouveau à son bras. Avant de se reposer, même si elle se sentait à bout de force, elle devait aller passer un moment avec ses hommes. Sinon, ils penseraient qu'elle ne s'intéressait pas vraiment à eux. Après leurs exploits, il convenait au nom des contrées du milieu qu'elle leur manifeste son admiration. Propre, les cheveux démêlés et chaudement vêtue, elle marcha entre les feux de camp, prêtant l'oreille aux récits excités de certains soldats autant qu'aux propos laconiques des autres. Elle répondit à toutes les questions, sourit à ceux qui avaient besoin de réconfort et répéta un nombre incalculable de fois que leurs exploits gonflaient son cœur de fierté. S'agenouillant près des blessés, elle s'assura qu'ils avaient assez chaud, leur tapota les joues et leur souhaita une prompte guérison. Les voir apaisés par son contact mit du baume sur ses propres blessures, plus morales que physiques. Autour d'un feu où se serraient une dizaine d'hommes silencieux, elle avisa un très jeune soldat qui tremblait de tous ses membres, et pas de froid selon toute probabilité.
« Comment vas-tu, soldat ? On se réchauffe un peu ?»«
Oui, mère inquisitrice, »
dit le garçon, agréablement surpris de la voir là. Malgré tous ses efforts, il ne parvint pas à cesser de claquer des dents.
« Mais je ne pensais pas que ce serait comme ça. »
Il désigna ses compagnons.
« Ce sont mes amis. 6 de nos camarades ne sont pas revenus. »
Kalan tendit une main et écarta les mèches de cheveux collées au front du jeune homme.
« Je suis navré et je les pleure aussi. Mais vous devez savoir, soldat, que je suis fier de vous. Des braves d'entre les braves, voilà ce que vous êtes. Sans vous, nous serions tous morts. Les darans allaient nous tailler en pièces, mais vous les avez chargés, seuls et déconcentrés le temps que nous puissions contre-attaquer. Mère inquisitrice, vous nous avez sauvés. Et je serais fier de compter à mon palmarès la moitié des types que vous avez étripés. »
Ses amis hochèrent tous la tête.
« Encore merci, mère inquisitrice. Si j'avais le choix, je préférais combattre à vos côtés qu'auprès du prince Harold en personne. »
« Elle se débrouille plutôt bien avec une épée, pas vrai ?»
lança soudain une voix dans le dos de Kalan. Le soldat salua aussitôt Ryan.
« Elle pourrait nous en remontrer à tous, capitaine. Vous n'allez pas le croire, mais elle... »«
Soldat !»
coupa précipitamment Kalan.
« Tu as eu à manger ?»«
Des haricots, oui. Il en reste. Vous en voulez un peu, mère inquisitrice ?»
À l'idée d'avaler quelque chose, la jeune femme crut qu'elle allait vomir.
« Non, merci. Finissez la portion, car vous devez reprendre des forces. Moi, je vais aller voir vos camarades. »
Ryan la suivit comme son ombre.
« J'aurais cru que manier une épée vous poserait quelques problèmes, » dit-il. « Les hommes qui ont décelé votre cheval ont retrouvé des mains et des doigts coupés un peu partout. »
Kalan sourit aux hommes qu'elle dépassait. Ils lui répondirent d'un petit geste ou d'une amicale révérence.
« Avez-vous oublié de qui je suis la fille ? Wyborn m'a appris à jouer de la lame. Mère inquisitrice, ce n'est pas une raison pour avoir... Le lieutenant Sloane avait été tué. »
« Je sais. Des hommes m'ont tout raconté. »
Voyant que Kalan titubait, Ryan glissa un bras sous le sien.
« Vous n'avez pas l'air bien, mère inquisitrice. J'ai vu des ennemis empoisonnés qui semblaient plus vaillants que vous. C'est le manque de sommeil. »
Elle omit de mentionner l'utilisation imprévue de son pouvoir.
« Je suis morte de fatigue. »
Quand elle revint devant son abri, les deux frères l'attendaient. Lorsque Tosidine lui proposa une portion de haricots, elle ferma les yeux et porta une main à sa bouche. La vue et l'odeur de la nourriture lui retournaient l'estomac. Tosidine parut comprendre et fit promptement disparaître le rata. Prindine lui prit l'autre bras.
« Mère inquisitrice, tu dois manger, mais je crois que dormir est plus urgent. Je t'ai préparé du thé pour te requinquer un peu, il est dans l'abri. » « Oui, ça me fera du bien. Capitaine,
Réveillez-moi juste avant la prochaine attaque. Je veux accompagner mes gars.
Si vous êtes assez remise, et si...
Kalan le foudroyant du regard, il n'insista pas.
Très bien, je vous réveillerai moi-même.
Revenue dans son nid, elle se servit du thé en tremblant, en but un peu, et la tête lui tournant plus que jamais, reposa sa chope. Une fois couchée, elle se répéta qu'elle irait beaucoup mieux après quelques heures de sommeil. Déjà, elle sentait son pouvoir revenir. Elle se recroquevilla en position fœtale et pensa aux millions de choses qu'elle devrait faire une fois réveillée. Que devenaient les hommes qui attaquaient en ce moment? Et ceux qui leur succéderaient, avaient-ils le moral? Elle s'inquiétait pour eux. Tous étaient si jeunes. De quel droit avait-elle déclaré une guerre?
Mais elle n'avait rien déclaré du tout. Seulement refusé de livrer des innocents à une bande de bouchers? Quelle autre solution aurait-elle eue?
Responsable de tous les peuples des contrées, il lui revenait de mettre fin aux exactions de l'ordre impérial. Elle revit les visages des jeunes suppliciés d'Ebinissa. Ce soir, elle était trop épuisée pour les pleurer. Plus tard, la vengeance accomplie, l'heure des larmes reviendrait. Mais elle ne connaîtrait plus la paix avant que le dernier soldat de l'ordre impérial soit dans la tombe. Dès demain, elle repartirait au combat. Tous les innocents seraient vengés. Si l'ordre impérial triomphait, des multitudes de malheureux périraient. Mais ce n'était pas tout. L'ordre voulait tuer toutes les créatures dotées de magie, qu'elles fussent maléfiques ou non. Et Richard était du nombre. En repensant à lui, Kalan pleura enfin, mais d'espoir. Celui qui ne la déteste pas, qu'il comprenne pourquoi elle avait agi ainsi et qu'il la pardonne. Elle avait fait de son mieux pour le sauver et protéger les vivants. Après un long moment, ses larmes se tarirent. L'image du sourcier chassa de sa tête celle de la bataille. Pour la première fois, elle put se concentrer sur autre chose que le combat et les tueries. Alors, elle se souvint que neutraliser l'ordre impérial n'était pas sa seule mission. Elle en avait une autre aussi importante que le tumulte de la guerre lui avait fait presque oublier. Elle repensa aussi à Darkenral qui avait marqué Richard avant que les Sœurs de la Lumière le capturent. Kalan devait aller en Aydindril pour demander de l'aide à Zed. Ensuite, Richard devrait vaincre le gardien. Le voile était déchiré. L'inquisitrice avait mieux à faire que de guerroyer contre les Darans. Soudain, elle réentendit le rire de Darkenral. Touchant son cou, elle sentit la chair tuméfiée là où il l'avait embrassée. Le rire de Ral n'avait pas été une illusion, il s'était moqué d'elle. Kalan s'assit en sursaut. Que fichait-elle ici? Il fallait arrêter le gardien. Shota, Darkenral et Dena lui avaient parlé de la déchirure dans le voile, et elle avait vu un grinceur de ses yeux. L'ancienne mort de Sith s'était sacrifiée pour sauver Richard afin qu'il puisse réparer le voile. Kalan devait aller retrouver Zed. Ce n'était pas le moment de jouer aux petits soldats. Mais si l'ordre impérial continuait, mais si le voile se déchirait? La priorité était d'aller rejoindre Zed en Aydindril. Les Galéiens sauraient bien se débrouiller sans elle, après tout c'était leur métier. La mère inquisitrice n'était pas censée risquer stupidement sa vie quand les contrées du milieu et le monde entier étaient en danger. Voilà pourquoi Darkenral s'était moqué d'elle. Elle prit la tasse de thé, encore une attention touchante de Prindin, et se réchauffa les mains à son contact. Elle devait agir comme une dirigeante, s'occuper de ce dont elle et elle seule pouvait se charger. Elle vida la chope et fit la grimace, étonnée par le goût amer du breuvage. Puis elle se rallongea, la chope posée sur son estomac. Les visages des jeunes filles mortes dansèrent de nouveau devant ses yeux. L'arme qui vient à bout le plus vite de la raison d'un adversaire est un mélange de violence et de terreur. Voilà ce que l'ordre impérial lui avait fait. À force d'horreur, l'ennemi l'avait privé de sa raison. Quelques heures plus tôt, ses hommes et elle auraient été perdus et condamnés s'il n'était resté aucun survivant parmi les éclaireurs. À sa façon, elle était une éclaireuse, ou plutôt un guide. En Aydindril, son rôle était d'orienter le conseil et d'unir tous les royaumes quand une menace se présentait. Aujourd'hui, sans ses lumières, les conseillers risquaient de réagir beaucoup trop tard. Elle était aussi le guide de Richard et son ultime recours si elle parvenait à contacter Zed. Sans elle, le sourcier et tous les vivants risquaient de s'égarer. Kalan se rassit et contempla la flamme de l'unique bougie qui brûlait encore.
Pas étonnant que Dargenral se soit moqué d'elle. Elle s'était laissé voler sa raison. En oubliant son véritable devoir, elle avait fourni davantage de temps aux gardiens pour mener à bien ses plans. Mais à présent, elle savait quoi faire. Les jeunes soldats galéiens, grâce à elle, appliquaient la bonne stratégie, et ils pourraient continuer seuls. Leur chemin allait se séparer, chacun se consacrant à son devoir. Les militaires se battraient, et l'inquisitrice irait en Aedindril. Sa décision prise, Callan eut l'impression qu'un grand poids venait d'être retiré de ses épaules. En même temps, elle se sentit pleine d'une nouvelle détermination. Même s'il n'était pas là, Richard l'avait aidée à voir la vérité et à retrouver le chemin du devoir. Elle baissa les yeux sur sa chope et constata qu'elle était vide. L'esprit embrumé, les paupières lourdes, elle se rallongea et ferma les yeux. Que faisait Richard en cet instant? Il devait être avec les Sœurs de la Lumière, occupé à apprendre le contrôle du don. Les esprits du bien, avec un peu de chance, l'aideraient à comprendre combien elle l'aimait. Son bras retomba et elle lâcha la chope pour sombrer dans un sommeil aussi profond que la mort.